La semaine a débuté avec un passage de témoin à Rome. Monseigneur Pietro Parolin a officiellement pris ses fonctions de secrétaire d'État du Vatican mardi, malgré son absence en raison d'une intervention chirurgicale sans gravité, a précisé le Saint-Siège. La cérémonie s'est donc concentrée sur le secrétaire d'État sortant, le cardinal Tarcisio Bertone, auquel le pape François a exprimé sa grande reconnaissance. Monseigneur Parolin pourra véritablement commencer à travailler dans un peu plus de 2 semaines après un peu de repos. Pour le cardinal Jean-Louis Torrent, cette nomination est un très bon choix de la part du pape François.
C'est un excellent prêtre, et il a une grande expérience internationale. Et il est jeune, donc il pourra accompagner le pape dans la réforme de la curie. Et je pense qu'il sera un orateur très efficace. C'est un bon négociateur, très équilibré. Il a accompagné les églises locales dans leurs difficultés. Une approche pastorale aussi, qui est très importante. La diplomatie est au service de la pastorale. Et ça, je crois que M. Parolin l'a très bien compris et le vit. Je pense que c'est un choix excellent, excellent.
Sur la scène internationale, le dossier syrien était toujours à la une cette semaine. Alors que le démantèlement de l'arsenal chimique a commencé, les combats se poursuivent et poussent toujours sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Ils sont nombreux à s'entasser dans des camps dans les pays frontaliers. Une délégation chrétienne et musulmane composée de représentants d'associations de solidarité et de personnalités religieuses françaises est allée à leur rencontre. Parmi elles, Camille Leprince, chargée de mission au CCFD Terre Solidaire. Elle nous raconte la vie des réfugiés syriens dans les camps, différentes selon qu'ils soient en Jordanie ou au Liban.
Par exemple, en Jordanie, c'est notamment la question de l'accès à l'eau qui se pose, puisque c'est une ressource très rare dans un des pays qui en est le moins pourvu au monde. L'organisation des camps est gérée de manière plus systématique par des ONG, par les agences des Nations Unies. Il y a une prise en charge donc qui est plus aisée, mais en même temps, certains ont un fort sentiment d'enfermement. Je pense au camp de Zaatari, par exemple, avec un couvre-feu, avec une distribution qui est parfois extrêmement standardisée.
Cette semaine a aussi marqué la fin, au moins temporaire, de la crise budgétaire américaine. Le shutdown s'est terminé mercredi soir avec un accord trouvé in extremis au Parlement entre républicains et démocrates. Mais si les agents publics ont pu retourner au travail dès le lendemain, cette impasse pourrait bien laisser des traces dans le paysage politique américain. L'analyse de François Durper, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise.
Américains, pour la plupart d'entre eux, sont extrêmement fâchés de la position de blocage de ces républicains conservateurs. En 1995, dans son bras de fer contre Gingrich et les républicains, Clinton l'avait emporté. Il semble que Barack Obama, après une quinzaine de jours de shutdown, semble emporter son bras de fer parce que ce à quoi il tenait le plus, c'est-à-dire sa réforme de la santé Obamacare, eh bien sort quasiment indemne de ce bras de fer.
On reste sur le continent américain avec un accord commercial de grande importance signé entre le Canada et l'Union européenne. Le texte crée une zone de libre-échange avec un potentiel de 533 millions de consommateurs, soit la plus grande zone de libre-échange au monde. Pour l'économiste Nicolas Bavret, ce type d'accord illustre la restructuration des échanges commerciaux à l'échelle mondiale.
Le libre-échange sous sa forme multilatérale au sein de l'OMC est à l'arrêt puisque les négociations de Doha qui ont été engagées depuis 2001 ne parviennent pas à déboucher sur un accord puisqu'il faudrait arriver à mettre d'accord plus de 150 États. En revanche, on s'aperçoit que le libre-échange aujourd'hui progresse sous la forme d'un certain nombre d'accords bilatéraux. Il y a un projet des négociations sur un grand marché transatlantique. Cet accord entre l'Union européenne et le Canada, il est également important parce que c'est une sorte de préfiguration également des discussions transatlantiques.
Aujourd'hui, il y a exactement 2 ans que le colonel Kadhafi était tué après une insurrection populaire et une intervention militaire. Depuis, la Libye est en proie à la violence, exercée notamment par des milices armées. Selon Hazni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée à Genève, en Suisse, cette crise politique est le résultat d'un manque d'une identité nationale commune en Libye.
Kadhafi, d'abord, n'a jamais travaillé en amont sur l'émergence d'une identité nationale libyenne. Il a essayé de la forcer. Le régime actuel, en disant que issu des élections de l'après-Kadhafi, n'a pas réussi à proposer un projet de société qui regroupe ou qui intègre toutes ces identités dans une identité nationale, ou disons dans une citoyenneté nationale. Donc, on est face à une identité locale, une identité régionale, tribale, qui devient une valeur refuge face à l'absence d'un État capable d'assurer et de rassurer.
Enfin, jeudi a eu lieu la journée internationale du refus de la misère. À l'initiative d'ATD Quart Monde, une marche contre les préjugés était organisée à Paris. Un moment de rencontre, seule solution pour combattre la pauvreté, selon Bruno Tardieu, délégué national d'ATD Quart Monde.
Pendant 2 heures, marcher ensemble entre des gens qui vivent l'exclusion, qui sont jamais à l'honneur, qui sont toujours un peu à raser les murs, et puis des citoyens plus inclus, comme vous et moi, et ben 2 heures de marcher au coude à coude, ça peut changer radicalement le regard. Se rencontrer, mais pas dans une relation de bienfaiteur à bénéficiaire, mais dans une relation de citoyen à égalité. Et rien que cela change quelque chose pour les gens défavorisés. Et je le dis aussi, change quelque chose pour les autres, parce que moi, je sais que c'est ce mouvement qui m'a permis de changer ma propre perception de qui étaient les gens dans la pauvreté.